Pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger.
Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis très heureuse de vous retrouver en cette rentrée 2018 et très heureuse de recevoir Francis Dupuy-Déry. Bonjour et
bonjour.
Bienvenue. C'est un plaisir de vous recevoir à nouveau.
Le plaisir est pour moi.
Alors, Francis, vous êtes professeur de sciences politiques à l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes également l'auteur de nombreux ouvrages, dont Les Black Blocs, qui a fait l'objet d'une quatrième réédition en 2016, dont également La peur du peuple, ouvrage pour lequel je vous avais reçu au printemps 2017. Mais c'est le féministe que je reçois aujourd'hui, membre du Réseau québécois des études féministes et auteur de La crise de la masculinité. Alors attention, l'ouvrage ne sera disponible dans les librairies françaises qu'à partir de janvier 2019, mais on a profité de votre passage en France pour réaliser cet entretien avec vous. Donc prenez patience avant de pouvoir lire le bouquin, régalez-vous avec cette discussion. Alors La crise de la masculinité est sous-titrée « Autopsie d'un mythe tenace ». Un mythe, écrivez-vous, puisque ni la notion de crise comme événement redoutablement douloureux, soudain, problématique, ni la notion de masculinité, notion un peu difficile à définir au fond, aucune de ces deux notions, pardon, ne permet de décrire ce qui se produit dans la plupart des sociétés du monde aujourd'hui, ce qui se produit, c'est-à-dire la persistance d'un patriarcat encore extrêmement puissant, en dépit de la vigueur de certaines luttes féministes et de leurs récentes conquêtes. Certes, l'émancipation des femmes fait quelques progrès ici et là, mais sans mettre en péril la domination masculine sur les plans économiques, politiques ou psychosociaux. Et partout, on entend cependant l'idée que la masculinité serait en crise. Partout, c'est-à-dire vraiment aux quatre coins du monde, votre ouvrage révèle à quel point ce discours est planétaire et à quel point aussi il est immémorial, puisque vous en détectez les premières occurrences dans la Rome antique. Au point qu'on est tenté de penser que, au fond, c'est un trait constitutif de la masculinité que de se déclarer en crise, c'est-à-dire menacé dès lors que la moindre revendication féministe se fait entendre. En vous lisant, on comprend que la masculinité, ce n'est pas tant l'ensemble des caractères supposément liés au sexe masculin, caractères d'ailleurs culturellement encouragés, ce n'est pas tant cet ensemble de caractères que, au fond, le sentiment d'une domination légitime, d'une suprématie indiscutable. Mais si c'est ça, la masculinité, si c'est ce sentiment d'une domination légitime, alors oui, on peut dire qu'elle est en crise, puisque cette domination est désormais presque partout contestée, discutée, remise en cause. Et donc finalement, c'est peut-être pas tant un mythe que ça, la crise de la masculinité. Oui, elle est en crise, comme dans le sens où son hégémonie est partout mise en cause. Elle est en crise et donc c'est une excellente nouvelle dont nous avons toutes les raisons de nous réjouir. Moi, en tout cas, je m'en réjouis, pas vous ?
Elle est en crise parce que des femmes remettent en question la domination masculine ou les avantages masculins. Mais ça, c'est dans le discours ou c'est dans les mobilisations ou c'est dans les critiques qui peuvent être adressées à cette domination masculine ou à la classe des hommes. Mais dans les faits, donc si c'est une crise, ça serait une crise nécessairement symbolique. Il y a plusieurs personnes qui tiennent ce discours, que ce soit des hommes plus sympathiques aux féministes comme Éric Massé, par exemple, en France, un sociologue qui a écrit Le post-patriarcat, où il défend la thèse, en fait, que le patriarcat s'effrite à partir de 1789, déclaration des droits, de l'égalité fondamentale, etc., des droits, en France en tout cas. Il ne serait pas content que je dise ça, mais à droite, il y a Éric Zemmour qui tient un peu le même discours, où il dit en décapitant le roi, on a décapité le père, et les fils se sont débarrassés du père, et ont mis au rebut aussi de l'histoire le patriarcat. Le problème avec une interprétation comme ça, c'est qu'on se concentre sur les symboles ou sur les principes ou sur des revendications de principes. Mais moi, je préfère aller voir vraiment qu'est-ce qui se passe dans les institutions de pouvoir, que ce soit économique, politique ou culturel ou médiatique ou même universitaire, qui a le pouvoir dans les rapports sociaux interindividuels entre les hommes et les femmes, dans les familles, dans les couples hétérosexuels, qui sont encore en fait beaucoup plus traditionnels tendanciellement qu'on a tendance à le croire, après tous les discours sur les nouveaux hommes, les nouveaux pères, les hommes roses, etc. Et là, on voit bien que le patriarcat ou la suprématie mâle, elle a encore apparemment des beaux jours devant elle.
Non mais écoutez-moi, il y a une concomitance. Alors après, moi, j'estime que c'est lié. On peut dire que c'est un hasard. Il n'empêche que vous aurez remarqué que aujourd'hui, depuis 20 ans, il y a une montée de la présence féminine dans la vie politique, dans les classes politiques, encore plus d'ailleurs dans les pays du Nord, vous avez remarqué. Et puis ça descend petit à petit vers les pays du Sud. Or, parallèlement, concomitamment, le pouvoir s'évapore du politique.
Mais c'est aussi la progression de la société, tout simplement.
Mais
je connais votre thèse sur l'affaiblissement du politique, ça se discute.
Mais
c'est indépendant, c'est aussi une parité qui avance dans les différentes sociétés,
dans
heureusement.
Mais pas du tout. Dans les milieux où il y a vraiment le pouvoir, il n'y a pas de femmes. Dans la finance, c'est infinitésimal, c'est marginal. D'ailleurs, les féministes m'ont beaucoup amusé en 2008. Elles ont dit s'il y avait eu des femmes dans la finance, il n'y aurait pas eu la crise.
Donc,
on
ne
peut pas dire tout et tout le contraire de tout.
Alors là, ce que vous avez mis en place sont les éléments de description d'une féminisation de la société. Ça, c'est un discours qu'on entend beaucoup chez les masculinistes, et notamment chez Éric Zemmour, que vous avez cité, qui est vraiment un des porte-drapeaux du masculinisme en France. Donc, les gens qui prétendent qu'il y a une crise de la masculinité s'appuie sur une description de la société qui la voit comme une société incroyablement féminisée.
Exact.
Sous prétexte qu'il y a un certain nombre de métiers qui se sont féminisés. Alors, ceci dit, objectivement, on ne peut que constater qu'un certain nombre d'institutions, dans le droit, sinon dans le fait, ont basculé du côté de l'égalité. Alors, peut-être pas 1789, parce que quand même, la Révolution française, elle est encore incroyablement sexiste en interdisant aux femmes de participer aux délibérations à l'Assemblée nationale, en interdisant en refusant d'accueillir leurs revendications. Donc, je ne sais pas si je situerais la fin du patriarcat en 1789, mais il semblerait qu'au XXe siècle, quand même, il y ait eu une bascule des institutions, là où au siècle précédent, les grandes institutions du pouvoir, la loi, la justice, la royauté, étaient toujours du côté du patriarcat, quand même, est-ce qu'on ne peut pas observer que la plupart des grandes institutions aujourd'hui, dans leurs règles et leurs principes, tiennent un discours d'égalité ? Et c'est ça, au fond, la féminisation de la société, c'est que le discours officiel des institutions a changé de camp. Peut-être ça, c'est quand même une sorte de petite victoire dont il faut commencer à se réjouir. La bascule du discours officiel.
C'est sûr qu'au XXe siècle, avec des allers de retour, là, c'est un peu des montagnes russes quand même, le XXe siècle. Mais tendanciellement, c'est sûr que si on prend des sociétés ou des pays ou des États comme la France, le Canada, les États-Unis, disons, pour faire vite, évidemment, ça fait pas. Il y a d'autres pays au monde, mais si on regarde ceux-là, par exemple, effectivement, il y a évidemment des choses qui ont changé. Et qui ont changé aussi, c'est un peu. Une évidence de dire ça depuis les années 60. 50-60, il y a eu une sorte d'accélération de ces transformations. Il y a des femmes qui sont rentrées dans à peu près tous les métiers qui leur étaient jusqu'alors interdits, à part avec des exceptions notables, par exemple les métiers liés à l'Église, quelle que soit la religion d'ailleurs, où là l'État d'ailleurs, même républicain, accorde encore des exceptions et droit de discriminer en fait à l'emploi. L'État républicain français, à ce que je sache, n'oblige pas l'Église catholique à ouvrir le poste de prêtrise aux femmes, même si c'est un principe de discrimination à l'emploi évident. Donc, à ce sujet-là, oui. Et évidemment, au niveau législatif aussi, les femmes ont eu des gains, évidemment, sur le contrôle de votre propre contrôle de votre corps, la question de l'avortement, le viol conjugal maintenant qui est reconnu en France, depuis 1990, par le droit français. Évidemment, le droit de voter, le droit, etc., le droit de... Donc ça, effectivement, ce sont des avancées importantes. Je pense que les femmes le sentent bien et s'en réjouissent. Mais si on regarde statistiquement qui occupe les postes de pouvoir, qui contrôle les grandes fortunes, qui dispose du plus de pouvoir d'influence institutionnelle dans une société comme la France, on est encore loin de l'égalité. On est vraiment loin de l'égalité. On est loin de ce qu'on appelle en politique la parité, y compris souvent dans le Conseil des ministres, mais pas seulement là, dans les grands syndicats, dans les associations étudiantes, dans les sociétés professionnelles. Je ne suis pas spécialiste de toutes les sociétés professionnelles, mais j'imagine que au MEDEF, le patronat, les sociétés d'ingénierie, par exemple, j'imagine, sont encore très largement masculines en France, par exemple. C'est là, il y a énormément de pouvoir et d'argent et de jeux d'influence, et ça crée encore des sortes de ce qu'on appelle en Amérique du Nord des boys clubs, donc des clubs d'hommes, même si par ailleurs, il y a deux, trois femmes qui ont réussi à y faire leur entrée.
C'est marrant d'ailleurs sur ces clubs d'hommes, vous employez cette expression de manière récurrente dans votre ouvrage, ces clubs d'hommes qui sont au fond des assemblées non mixtes d'hommes. C'est intéressant de voir à quel point on a une indulgence, une tolérance vis-à-vis des rassemblements d'hommes non mixtes qui se produisent depuis des siècles sans qu'il y ait l'ombre d'une contestation, alors que dès que les femmes ont la prétention de faire des rassemblements non mixtes, des groupes de travail dans lesquels elles se rassemblent entre femmes, tout de suite, alors ça devient une menace.
Elles sont pointées du doigt, oui.
Voilà.
En fait, c'est les hommes qui ont inventé la non-mixité, ça c'est certain pour nous. Et puis après ça, quand les femmes veulent se réunir ensemble, entre elles, pour discuter de stratégie ou d'évaluer ensemble la situation et penser leur meilleure stratégie, c'est un crime de lèse-majesté.
Oui, de lèse-majesté. Alors, je trouve que l'expression lèse-majesté, c'est vraiment celle qui décrit le mieux le problème de la masculinité, soi-disant en crise. Au fond, c'est à chaque fois parce qu'ils sont dans des situations de lèse-majesté, c'est-à-dire qu'on les prive de prérogatives qu'ils estiment... ils estiment avoir accès du seul fait de leur appartenance au genre masculin. C'est ça,
exactement.
C'est une sorte d'aristocratie persistante. Le genre masculin aurait plus de droits naturels que le genre féminin.
Je donne des exemples dans le livre là, de cette logique. Je traite des États-Unis à plusieurs reprises dans le livre et en anglais, il y a un terme qui est difficile à traduire en français qui est untitled. Cela nous est dû, mais en fonction d'un titre. Évidemment, c'est très lié à l'aristocratie ou à la noblesse.
C'est ça.
À l'époque de l'Ancien Régime, donc, évidemment, les nobles avaient des privilèges, y compris des sièges leur étant réservés à l'église ou des choses comme ça. On devait se décoiffer quand ils passaient, bon, tout ce genre de trucs. Et des spécialistes dans une perspective féministe de ce qu'on appelle la condition masculine aux États-Unis, par exemple, soulignent qu'il est tout à fait symptomatique qu'on ait des émissions de radio, par exemple, qui lancent un débat sur, je sais de mémoire, mais une femme noire a volé mon emploi. Et là, on met des hommes autour de la table qui disent, ben nous, on est spoliés en tant qu'hommes parce qu'on peut être au chômage alors que des femmes ont un emploi. Comme si, en fait, les emplois étaient premiers aux hommes.
Ouais.
Et quand une femme prend cet emploi... obtient cet emploi, et si en plus elle est noire, ben l'homme en fait se sent dépossédé de ce qui lui est dû. Donc c'est vraiment une logique d'aristocrate.
Oui, tout à fait. Alors là, vous avez évoqué quelques éléments d'histoire à travers l'Ancien Régime, les privilèges de l'aristocratie, et vous avez souligné tout à l'heure combien au XXe siècle, les avancées, les conquêtes féministes s'étaient faites par à-coups, et il y a aussi des phénomènes de ressac,
de backlash.
Alors c'est très intéressant dans votre ouvrage d'observer cette historicité de la crise de la masculinité, c'est-à-dire à la fois, c'est un discours qui est très ancien. Dès la Rome antique, je le précisais en introduction, des hommes se sont plaints d'être menacés dans leur masculinité parce que des femmes pouvaient éventuellement prendre certains droits. Mais après, on observe qu'en fait, il y a des pics, des moments comme ça d'allergie masculiniste qui ne correspondent pas tellement au moment où la société est relativement égalitaire. C'est marrant, vous notez le fait que dans le haut Moyen-Âge, qui est une période relativement égalitaire, évidemment, il faut nuancer, hein, où les femmes et les hommes, en gros, travaillent ensemble au champ, dans des conditions relativement égalitaires. Ce n'est pas là qu'il y a des discours de crise de la masculinité. C'est plutôt, vous notez, une recrudescence de ce discours, par exemple, au XVIIe siècle, alors que le patriarcat s'est complètement réédifié, reconsolidé. Alors, du coup, la question qui se pose, c'est le discours de crise de la masculinité, est-ce que c'est un allié de la construction du patriarcat qui vient en gros cimenter une édification institutionnelle qui était en place depuis quelques décennies ou quelques siècles, ou bien est-ce que c'est en fait le baromètre des revendications féministes? C'est-à-dire, évidemment, plus le patriarcat va se reconsolider, se resolidifier, plus les femmes vont de plus en plus faire entendre leurs protestations, et donc on aura le discours de la crise de la masculinité en réaction. Voyez, en gros, le discours de la crise de la masculinité, c'est mauvais signe parce que ça veut dire que le patriarcat est en train de reprendre de la vigueur, ou c'est bon signe parce que ça veut dire que c'est les luttes féministes qui sont en pleine forme et qui suscitent en réaction ce discours-là.
Oui, je pense que c'est les deux. Mais juste avant, je veux souligner, je vais à mon tour souligner là ce que vous avez mentionné, c'est que le discours de la crise de la masculinité, le travail que j'essaie de faire en première partie du livre, c'est de montrer donc son ancrage dans l'histoire, dans la longue durée, en tout cas en Occident, sur 500 ans. Et donc, ce qu'on voit bien là, c'est que ce discours de crise de la masculinité, il peut être entendu, exprimé et entendu, quel que soit le régime politique, donc une monarchie, une république, une petite puissance, une grande puissance, une superpuissance, comme les États-Unis ou l'URSS, quel que soit le système politique et quel que soit le cadre juridique. Donc, même quand les femmes ont très peu de droits par rapport au mari, par exemple, ou au père, on peut entendre le discours de la crise de la masculinité, puis on peut l'entendre, évidemment, dans des périodes plus libérales, disons, du point de vue des rapports sociaux de sexe. Donc, ça, c'est un premier point que je voulais... je pense qu'il est important de le dire. Mais ça nous informe aussi sur le sens attribué à ce discours, dans la mesure où il peut s'exprimer un peu partout, à tous les moments et dans toutes les conditions. Là, je pense qu'on a vraiment la preuve, empirique, disons, que c'est une ressource rhétorique qui sert, comme vous l'avez dit, à la fois dans la construction, la consolidation, l'affirmation d'une identité masculine dominante. D'ailleurs, la domination ou la suprématie est un principe intrinsèquement lié à l'identité masculine, selon mon point de vue, qui est une identité politique, on y reviendra peut-être, d'accord, et pas psychologique, selon moi, ou biologique. Mais aussi, c'est une sorte de joker qu'on ressort à chaque fois qu'une femme apparaît sortir des normes qu'on veut lui imposer ou le cadre dans lequel on veut limiter son rayon d'action, son rayon d'être, son rayon d'avoir même. Mm-hmm. Et là, on dit, cette femme, en fait, elle bouscule nos certitudes, elle nous bouscule et elle nous provoque chez nous une crise, ce qui est assez particulier. Mm-hmm. Et je montre quelques cas en me basant, par exemple, sur les travaux de Juliette Rennes, qui a étudié ce qu'elle appelle les premières au 19e siècle. Fin du 19e siècle, c'est les premières femmes en France, son étude, c'est sur la France, qui vont vouloir devenir avocate ou médecin. Il s'agit d'une femme, mais il y a comme une sorte de panique morale dans la société française, dans les médias français, qui disent, en fait, c'est fini. Le droit français va être féminisé ou la médecine française va être féminisée parce qu'il y a une femme qui rentre dans le domaine. C'est une femme impressionnante, là. Ouais. Elle seule, il s'agit d'une femme pour...
Ouais, ouais. Non, puis surtout, qu'est-ce que ça veut dire? Le droit va être féminisé, ou le droit ou n'importe quel corps de doctrine ou de métier, quoi. Qu'est-ce que ça veut dire dans leur tête? Ça va être féminisé. Là, on arrive sur la question la plus difficile, celle de la définition des notions. Ça veut dire quoi, féminisé, féminin? Ça veut dire quoi, masculinité, masculin? Alors là, vous disiez tout à l'heure, la masculinité, c'est une identité politique, c'est pas une identité biologique ou psychologique. Alors exact. Peut-être c'est le moment, là, de développer la définition, c'est quoi la masculinité selon vous?
Alors, cette réflexion-là, elle me vient évidemment des auteurs féministes qui m'ont influencé. Je n'ai pas pensé à tout ça tout seul dans ma cuisine ou dans mon salon. Et donc, j'ai beaucoup lu des sociologues féministes françaises comme Christine Delphi ou Colette Guillaumin ou... Wittig aussi, Monique Wittig, puis des Afro-Américaines comme Bell Hooks et Patricia L. Collins, entre autres. Et puis, je travaille avec Mélissa Blais aussi, qui est historienne et sociologue au Québec, et Diane Lamoureux, avec qui on travaille ensemble sur l'antiféminisme, Christine Barr en histoire ici en France. Bref, à force de réfléchir avec ces femmes et à travers ces lectures, et puis surtout avec l'effet de loupe de cette recherche qui est sur la notion de la crise de la masculinité, ce que je vois bien, c'est que la façon dont elle est définie, cette masculinité, c'est une définition politique. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui est associé à la masculinité, c'est toujours des qualités ou des caractéristiques qui sont liées à la domination. Donc, c'est la force, l'agressivité, la capacité à l'action, la compétition et la compétitivité, ce qui est très intéressant. Par effet de miroir, le discours de la crise de la masculinité qui définit cette masculinité de cette manière... propose aussi une définition de la femme qui est l'inverse, qui est le contraire. Et donc, c'est la douceur, la passivité. Les personnes vont même dire l'égalité. Donc, l'égalité serait féminine, ce qui est quand même, il faut l'avouer, assez bizarre. Ça veut donc dire que la masculinité n'est pas égalitaire. Ce qui est dit, en fait, ce n'est pas simplement une interprétation, c'est ce qui est dit. Et donc, ça, ce sont des notions politiques. Et on voit bien dans l'interaction entre les deux sexes, si c'est les qualités qu'on attribue au mâle et si c'est les qualités qu'on attribue au sexe féminin, on voit bien qui est donné gagnant au départ. Si moi, j'ai la force, l'action, l'agressivité, la compétitivité, etc., et vous êtes douceur, passivité, entraide et égalité, vous avez perdu. Là, vous avez déjà perdu dès le départ. Vous n'avez même pas besoin de commencer à essayer de vous battre. Et donc, pour moi, ça, c'est des notions vraiment... c'est une logique politique et c'est une logique de justification de la suprématie mâle et de l'acceptation des femmes de leur statut de subalterne. Ouais. Et donc, quand elles dérogent à cela, c'est la crise.
Ouais. Alors, bon, il y a quand même...
Mais juste pour terminer, oui, excusez-moi, je vous interromps. Les hommes ont fait ça souvent,
mais... ça m'arrive de le faire aussi.
Oui,
hein.
Je sais, c'est scandaleux d'ailleurs, mais... mais donc tout ça, pour moi, selon moi, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec la biologie ou les hormones. Ou,
ouais.
Évidemment, ça peut avoir à faire avec la socialisation. On est quand même éduqué, ça je comprends, on a des modèles. Mais pour moi, que ça soit l'agressivité ou l'ambition ou l'action, la douceur, l'empathie ou la solidarité ou l'égalité, ben ça pour moi, ce sont des valeurs ou des caractéristiques humaines.
Ouais, ouais.
En principe, chaque humain pourrait pouvoir développer ou exprimer ces types de qualités ou de comportements. Ça ne doit pas être associé simplement à un sexe et penser que si on le retrouve dans l'autre sexe, c'est quelque chose de pathologique où il y a une sorte d'intoxication ou de gangrène qui est en train de prendre et qu'on se transforme en l'autre sexe. Et ça serait quelque chose de pathologique.
Ouais.
Et donc, dans le discours de la masculinité, il y a souvent ça. Il y a trop d'éléments féminins qui sont en train de gangréner la société. Les hommes sont bouffés par ça et nous devenons des femmes, alors qu'être un homme, ce n'est pas être une femme.
Ouais. Alors, bon, vous avez dit énormément de choses sur lesquelles il va falloir revenir, notamment les effets de socialisation, hein, comment en fait on perpétue une certaine masculinité par des effets en fait, d'encouragement fait aux petits garçons hein, à se comporter de telle ou telle manière, etc. Donc il y a des effets de socialisation sur lesquels il faudra revenir. Mais il y a aussi tout le chapitre biologique que vous récusez complètement. Il y a pas de voilà en dehors de la différence anatomique, en gros il y a pas normalement il y a pas à tenir compte de différence masculin-féminin. Bon il y a quand même un courant du féminisme extrêmement minoritaire qui est très peu représenté, qui est tenu en France par une chercheuse qui s'appelle Peggy Sastre. Elle défend ce qu'elle appelle l'évo-féminisme ou le féminisme à la lumière de l'évolution selon Darwin. C'est-à-dire qu'elle met en avant le fait que si les hommes sont ce qu'ils sont aujourd'hui, si les femmes sont ce qu'elles sont aujourd'hui, c'est que, en fait, c'est ainsi qu'elles ont été sélectionnées, ils et elles ont été sélectionnées pendant des millions d'années, du fait des stratégies reproductives qui ne sont pas les mêmes selon qu'on est mâle ou selon qu'on est femelle. On n'a pas les mêmes stratégies reproductives parce qu'on n'a pas non plus les mêmes modalités reproductives. Hein, l'investissement pour le sexe mâle est moins important que pour le sexe femelle qui va porter, qui va vivre la gestation et tout ça. Donc, il n'y a pas les mêmes stratégies reproductives. Et donc, en fait, au cours des millions d'années, hommes et femmes se sont sélectionnés les uns les autres en fonction de critères reproductifs. C'est-à-dire que les mâles cherchent les bonnes reproductrices, les femelles cherchent les bons reproducteurs, et ça a fait émerger, peu à peu, des traits distinctifs entre le masculin et le féminin, qui persistent encore aujourd'hui, et l'évo-féministe consiste à dire, féminisme consiste à dire, c'est pas parce que ça a été comme ça jusqu'à présent dans un certain contexte qu'il faut vouloir que ça continue comme ça. L'évolution de l'espèce, c'est l'évolution, ça évolue, et donc à mesure que le contexte évolue, eh ben, les caractéristiques évolueront aussi, celles sélectionnées. Donc est-ce que vous pouvez reconnaître une part de vérité à cette analyse qui, du coup, considère, c'est ce qu'elle dit, attention, qu'il n'y a pas de domination masculine parce que c'est une co-construction par les mâles et les femelles pendant des millions d'années. Ce n'est pas la domination d'un sexe sur l'autre, voyez.
Et nous avons des rôles complémentaires.
Oui, alors non, elle n'est pas sur la question des rôles du tout. Parce que vous êtes sur la question de l'âge des cavernes, que vous démontez très bien. Alors, si vous voulez, on peut faire un petit moment sur la question de l'âge des cavernes.
J'aimerais ça.
Allons-y, parlons de l'âge des cavernes, ce fameux âge des cavernes. Oui. Démarrons là-dessus.
Alors, et c'est lié, en fait, je pense.
Ouais.
Parce que, si je ne me trompe pas, là, j'espère que je me rappelle bien du nom, mais Claudine Cohen, entre autres, avec un livre qui s'appelle « Première femme » et d'autres, en fait, ont bien montré que, en fait, la meilleure position qu'on devrait avoir si on est raisonnable et rationnel par rapport à la préhistoire humaine, c'est une sorte d'agnosticisme par rapport au rapport entre les hommes et les femmes, et même par rapport aux structures sociales en général et au rapport familial, parce qu'en fait, on ne connaît à peu près rien et on ne connaîtra sans doute jamais exactement comment ça se passait à cette époque. On a un bout de bassin, un bout d'os qui est sans doute un bassin en Sibérie, un autre qui est peut-être une épaule en Éthiopie, un autre qui est, etc. Et en fait, souvent, ils ne savent même pas exactement si c'est de quel sexe il s'agit. Et ils y vont d'hypothèses en disant ben, si c'est un petit squelette, ça doit être féminin, c'est un grand squelette. Donc, on est vraiment dans la reproduction de nos clichés aujourd'hui. Et évidemment, avec... quelques quelques dents, des crânes, des choses comme ça, ou même un squelette, c'est très difficile de savoir qui faisait la cuisine, qui passait l'aspirateur dans la caverne, qui allait chasser le mammouth et qui s'occupait des enfants. En fait, on n'a aucune idée.
Ouais.
Et donc, je pense que la meilleure approche par rapport à cette fameuse préhistoire, préhistoire humaine, c'est juste une position agnostique, on ne sait pas.
Ouais.
Et on a tendance à reproduire, et Claudine Cohen et d'autres ont bien montré qu'en fait, en plus, en Occident, au 19e siècle, il y a eu une mode qui était lié d'ailleurs à l'exploration amateur des cavernes. Il y a eu une mode dans la littérature, dans l'art, dans la peinture, dans les journaux, etc., à produire cette fameuse image du mythe de la caverne conjugale où il y a la femme avec les enfants enterrés dans le fond de la caverne qui attend en fait les hommes qui sont en train de chasser. Mais ça, c'est une construction, qui est en fait un plaquage de ce qu'on appelait, à la fin du 19e siècle, la fameuse famille bourgeoise. À l'époque des cavernes. Et je pense que j'ai même des citations dans le livre où, en fait, des psychologues d'aujourd'hui disent en fait, la caverne de la préhistoire, c'est comme le bungalow de la banlieue nord-américaine aujourd'hui, c'est la même chose.
Ouais.
Mais non, mais c'est absurde, ça, c'est une reconstruction. Donc, une fois qu'on a dit ça, la question du darwinisme est très proche, en fait, parce qu'évidemment, on pense que c'est un travail qui se fait dans les gènes à travers l'évolution et quand même la division des rôles sexués qui va donner différentes méthodes d'adaptation et de stratégie pour l'accouplement et la reproduction des gènes. Mais je pense qu'on a souvent tendance, là encore, à plaquer un modèle de conjugalité et de reproduction qui est très... hétéronormé avec un homme, une femme, une famille.
Pour la reproduction, c'est normal que ce soit hétéronormé. Pour la reproduction sexuelle,
Oui, mais ce que je veux dire, c'est que reproduire nos gènes et élever nos enfants et augmenter les chances de survie de la famille, du clan, de la tribu, de la nation, whatever, l'humanité a exploré des dizaines et des centaines de modalités. Là, il y a des choses
schémas.
J'ai jamais entendu parler, j'ai jamais imaginé, mais que des spécialistes, ou pas des spécialistes, les gens qui vivent ces situations ont connu. On a une imagination vraiment très appauvrie par rapport à comment les rapports entre les sexes peuvent fonctionner, y compris au niveau de la reproduction et de l'élevage des enfants. C'est très appauvri. On est habité par la princesse, le prince, le mariage, la robe blanche, le mari, la femme, la petite fille, le petit garçon, le chien, le chat, tout ça. L'humanité a tellement d'autres modèles que c'est très simplificateur de penser qu'il y a une stratégie, disons, si on se préoccupe de cette question de la reproduction des gènes, qui serait le moteur premier de nos comportements conscients et inconscients. Ça me semble très curieux de penser qu'il y a une stratégie masculine et une stratégie féminine.
Ouais. Alors moi, ce qui m'intéresse dans cette manière-là de penser, qui est en effet très, très discutable à plein d'égards, mais j'aime bien l'hypothèse quand même d'une co-construction. C'est-à-dire, même, je pense que ça va beaucoup vous agacer, mais interroger aussi la responsabilité des femmes dans la construction de la masculinité. Beaucoup d'hommes peuvent être amenés à cultiver une sorte de masculinité conventionnelle parce qu'ils estiment que ça augmente leur chance de séduire. Et de fait, on constate en effet que des femmes continuent à privilégier des figures de mâles dominants dans leur choix. Je ne sais pas d'ailleurs si le terme de choix est adapté pour parler des inclinations amoureuses ou érotiques.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a quand même aussi, c'est vrai, est-ce qu'on peut poser la question de la contribution des femmes à la persistance de la masculinité comme motif désirable ? Voyez ? Est-ce que les femmes n'ont pas un rôle à jouer là-dedans ?
Si elles ont un rôle à jouer, je ne sais pas. C'est certain que certaines femmes jouent ce rôle-là. Et qu'il y a des hommes qui ne jouent pas ce rôle-là, etc. Donc, il y a des traits de classe, comme il y a des traits de sexe. Il y a donc des personnes qui ne sont pas dans le bon camp. Il y a des femmes antiféministes.
Oui, je sais bien.
Et même le discours de la crise de la masculinité, c'est un fonds de commerce de plusieurs femmes qui se présentent comme féministes et qui disent les pauvres hommes, surtout en France, on entend ça souvent, pauvres hommes français qui sont castrés à cause d'un féminisme américain qui nous arrive et qui est puritain, etc. Il y a un livre qui sort par année à peu près. C'est souvent une femme qui l'a écrit, puis les journaux lui font beaucoup de place, on le raccorde des tribunes.
Mais c'est une très bonne marchandise. Le discours de la masculinité, de la crise de la masculinité, c'est une marchandise qui se vend très bien.
On dit enfin une féministe qui a le courage de penser librement et qui se démarque des autres, et enfin un féministe original, alors qu'on entend ça depuis 30 ans. des fois chez les hommes aussi, Pascal Bruckner dit ça depuis les années 90. Là. Mmh. Donc bref, j'ai complètement oublié votre question.
Alors, ah oui, c'est ça, donc c'est ça. Donc c'est ça, mais parce que c'est en tant que féministe que ça m'intéresse, c'est-à-dire l'égalité, oui, le fait que les femmes sont partie prenante aussi de la construction des modèles imaginaires qui dominent dans une société.
Oui, oui.
Et donc, ça, c'est pas en tant que fausse féministe, mais en tant que vraie féministe que j'ai envie d'interroger la contribution des femmes à la persistance d'un modèle de masculinité, oui, oui, soi-disant, mais plus désirable, quoi.
Tout à fait, mais vous le voyez par rapport à la question de la séduction, disons, ou de, ouais, l'érotisme, ou des rapports, ouais, amoureux. Mais je pense qu'il y a plusieurs féministes qui sont dans des couples hétérosexuels et qui réalisent en fait qu'elles font plus de tâches domestiques,
vrai,
plus de tâches parentales, qu'elles s'occupent plus des enfants, même si elles ont lu tout Simone de Beauvoir, tout Christine Delphi, qu'elles enseignent des fois le féminisme.
Ouais. Alors, quelle part on fait à cette part-là de nous-mêmes?
Moi, je suis dans un couple hétérosexuel et je pense malheureusement que le couple, il n'est pas ouais, tout à fait égalitaire, même si ma conjointe est une féministe de choc, ouais, même si moi, je prétends être pro-féministe.
Mais de choc aussi.
Il est très facile de rentrer dans, ouais, dans des vieilles habitudes, dans ce qu'on nous a socialisé et penser que des choses nous sont dues en tant qu'homme, ouais, même pro-féministe. Ouais. Et donc, ça crée des flamèches, quoi.
D'accord.
Mais là, est-ce que c'est de sa faute à elle? Ben, je pense que c'est plutôt ma faute à moi.
Co-construction, je dis.
Oui, oui, oui.
J'ai bien compris en lisant votre ouvrage à quel point il y a une incrimination systématique des femmes. Hein, le discours de la crise de la masculinité consiste en gros à dire que les malheurs du monde sont toujours, c'est toujours la faute des femmes. Mmh. Donc, mon truc, c'est pas de dire, mais vous voyez bien, même ça, c'est le problème des femmes. C'est d'envisager la question de la co-construction, c'est-à-dire vraiment une égalité de contribution imaginaire du masculin et du féminin. C'est pas dire, c'est la faute des, oui, femmes. C'est-à-dire, on n'en sort qu'ensemble, hommes et femmes, en déconstruisant nos propres déterminations fantasmatiques.
Ce voyez qui est très difficile.
Je suis bien d'accord. Oui, mais c'est pas la faute des femmes. C'est... on s'en sortira ensemble, ou alors on ne s'en sortira pas.
Oui, oui, oui.
Construction fantasmatique, ça nous fait venir sur les questions des socialisations, la manière dont on est éduqué, dont on se cultive dans un bain culturel qui nous inonde de représentations encore dans lesquelles les hommes sont puissants, courageux, combatifs, compétitifs, etc., tandis que les femmes sont en, oui, général douces, empathiques, égalitaires, tout ça, tout ça, tout ça.
Ce n'est pas juste des représentations culturelles, c'est-à-dire, ouais, qu'on nous montre des hommes qui sont en position de pouvoir ou en position de... Donc évidemment, c'est médiatisé par les médias, par exemple, ou par, ouais, ce qu'on appelle la culture au sens large, mais... Le président de la France n'est pas simplement un produit culturel, il est le président,
bien
de la,
sûr,
France.
Oui.
Donc on le voit souvent à la télé, parce que c'est le président de la France, mais c'est lui le chef.
C'est, oui,
réellement
concrètement,
lui,
oui, c'est lui qui a le pouvoir. Ouais.
Ouais, ouais.
Oui, c'est pas que des représentations.
Non, mais parce que là, les sportifs, les millionnaires, les acteurs, bon,
ouais,
ils sont des représentations culturelles qui nous forment le cerveau ou le déforment, mais ils sont réellement en position de pouvoir.
Oui, oui, tout à fait. Alors, moi, j'étais sur la question de la socialisation et de la conformation de nos imaginaires, parce que votre ouvrage révèle un truc absolument passionnant, qui est que, en fait, le fantasme de la masculinité, c'est un fantasme qui est toxique pour les hommes eux-mêmes.
Oui.
C'est absolument passionnant. C'est à la fin de votre livre, vous montrez que souvent les masculinistes disent « Vous voyez, les hommes font mal, puisque la preuve, ils sont en plus en échec scolaire et ils se suicident plus. » Et vous montrez très bien que, mais en fait, le fait que les garçons soient plus volontiers en situation d'échec scolaire, c'est notamment parce que, enfin, c'est ceux qui ont une masculinité excessivement encouragée. Alors peut-être, je pense, on peut refaire cette, oui, démonstration à l'oral parce qu'elle est absolument passionnante. En fait, la masculinité ou le masculinisme est le problème dont les hommes, les masculinistes se plaignent, en fait. Sur la question de l'échec scolaire, je trouve que c'est intéressant, oui, de développer un petit peu.
Alors, dans le livre, comme vous venez de dire, donc je pense que c'est le dernier chapitre, là, j'ai, ouais, les 3-4 axes actuels du discours, les sous-discours, en fait, du discours général de la crise de la masculinité. Ouais. C'est donc le taux de suicide masculin qui est plus, ouais, élevé que celui des femmes, les difficultés scolaires des garçons, ouais, par rapport à celui des femmes, des filles qui seraient tendanciellement plus élevées, effectivement. Et puis après ça, on pourrait parler de ça aussi éventuellement, toute la question du tribunal de la famille, les divorces,
oui,
les pensions.
Les droits des pères.
Puis après,
ouais,
ça,
ouais,
la question des violences. Et là,
ouais,
les hommes disent, ben, nous aussi, on est violentés par des femmes, sauf que c'est tabou, on ne peut pas dire ça, etc. etc.
Ouais.
Et donc, je propose une déconstruction de ces quatre discours. Il y a plusieurs façons de les déconstruire, effectivement. Mais comme vous l'avez dit, je pense que quand on arrive à un des derniers arguments que j'essaie d'apporter, c'est de dire qu'en fait, la proposition sous-jacente du discours de la crise de la masculinité, c'est qu'il faut revaloriser ou réaffirmer une masculinité définie de manière très stéréotypée, virile, combative, même violente, liée aussi à l'amour des armes, des,
ouais,
sports,
ouais,
de combat,
ouais,
etc. Je dis, je dis pas ça, je rapporte les propos de psychologues ou de travailleurs sociaux ou d'intervenants en situation de crise par rapport au suicide, par exemple, ou des spécialistes en sciences d'éducation ou en pédagogie qui disent, c'est vraiment pas une super bonne idée parce qu'en fait, c'est plus problématique qu'aidant, c'est des facteurs de risque. Pour le suicide, c'est clair, si on n'arrête pas, si on continue à répéter que homme et arme à feu, ça va ensemble, une arme à feu, malheureusement, c'est une façon radicale de compléter un suicide, alors que les femmes sont moins amoureuses des armes à feu. Et donc, on le voit, elles en possèdent moins. Mmh. Et quand il est temps de passer à l'acte, si elles ont des pensées suicidaires, elles vont avoir moins recours à des moyens aussi drastiques. Et donc, elles complètent moins leur suicide.
Ouais, ouais.
Donc, c'est des sujets très compliqués, évidemment. Là. C'est des situations tragiques. Mais il y a un peu la même logique au niveau de l'école. On dit les garçons ont des problèmes scolaires parce qu'on ne leur permet pas de se chamailler, de se bagarrer à l'école. Évidemment, quand on dit ça, on ne pense jamais au garçon qui est battu.
Celui qui se fait tabasser dans la cour d'école.
On ne pense jamais à celui qui est tabassé et qui peut-être aime un peu moins l'école à force de se faire tabasser. Ouais. Et peut-être que ça ne serait pas un grand succès pédagogique pour lui.
Ouais.
On pense toujours à celui qui tabasse, en fait. Ça, c'est déjà un problème parce que souvent, les garçons se tabassent entre eux, en fait. Ouais. Je donne souvent l'exemple du... Comme je suis Québécois, je donne souvent l'exemple du capitaine de l'équipe de hockey, puisque moi-même, j'ai été capitaine de mon équipe de hockey quand j'étais jeune, même si ça paraît peu crédible aujourd'hui, mais pourtant, je l'ai été. Et, moi, je détestais l'école, mais effectivement, on avait beaucoup de plaisir au hockey. Et en fait, on tirait beaucoup une sorte de prestige de jouer au hockey, de plaisir de jouer au hockey. Mais il n'y avait pas de lien entre ça et réussir à l'école. Ouais. Et en fait, réussir à l'école pour les garçons, c'est un signe de... Il y a quelque chose de suspect au niveau de la masculinité, de l'identité masculine, de l'orientation sexuelle même. Donc, c'est un problème. Là, c'est pas ça la solution. Et pourtant, au Québec, par exemple, on a quelques écoles, et vous pouvez même aller voir ça sur le site de Radio-Canada. Il y a eu un reportage dessus, c'est incroyable. Ils ont organisé des batailles entre jeunes garçons. Ils leur mettent des casques, dans la cour de récréation, il y a les enseignantes qui sont autour, et ils les font se battre ensemble parce qu'ils pensent que ça va les aider à être bons en géographie ou en algèbre ou en conjugaison. J'ai aucune idée quelle est la valeur pédagogique de ça. Mais donc, c'est ça. Donc, en fait, dans le discours de la crise de la masculinité, il y a des fausses bonnes solutions.
Ouais.
Et les fausses bonnes solutions sont toujours les mêmes, c'est... Un homme, c'est un homme. Une femme, c'est une femme. C'est pas la même chose.
Ouais.
Il faut revenir aux vrais hommes.
Et les études que vous citiez tout à l'heure qui vous ont permis de documenter cette question de l'échec scolaire font apparaître, en fait, que la stéréotypie de genre, le fait d'être dans des genres très conventionnels, que ce soit pour les garçons comme pour les filles, en fait, c'est un facteur d'échec scolaire. C'est-à-dire un homme, un garçon, plus il est encouragé dans une masculinité classique d'aller courir, jouer, moins il investira le succès scolaire. Mais la fille aussi, parce que la fille qui surinvestit le schéma classique du féminin et qui est portée à la romance, aux petites histoires d'amour, etc., elle aussi, elle est en situation d'échec scolaire. Alors, vous citez cette étude très intéressante qui dit « Moins les modèles de genre sont contrastés dans le modèle familial, plus les jeunes s'affranchissent du carcan des stéréotypes de genre, mieux ils réussissent à l'école. » Donc, la stéréotypie de genre, en fait, est un facteur d'échec pour les deux.
Tendanciellement, évidemment.
Tendanciellement,
vous
bien
pouvez
sûr.
Vous pouvez être capitaine de votre équipe de hockey et être premier en français aussi, c'est possible. Mais bon, tendanciellement, c'est un facteur
j'imagine
de risque.
J'imagine que c'est vous parlez d'expérience, non ?
Non, je n'étais pas premier du tout à l'école.
Ah bon ? D'accord. Alors, vous notez ceci dit, entre parenthèses, en général, on trouve une moindre différenciation des rôles de sexe dans les milieux favorisés. Et vous ne développez pas cette parenthèse qui ouvre un abîme de réflexion. Donc, dans les classes supérieures, la stéréotypie de genre est moins forte que dans les classes populaires. Et là, on tient un sacré truc. C'est très intéressant et très important de travailler sur ça. Comment ça se fait que dans les classes populaires, la stéréotypie de genre est plus active que dans les classes supérieures, alors que, par ailleurs, les classes dominantes, les grands bourgeois, il y règne un patriarcat indiscutable.
Indiscutable.
Les grandes fortunes, etc.
Exactement.
Les clubs non mixtes chez les grands
riches.
Au
niveau de la propriété, tout ça, oui.
Bon, c'est hyper, hyper patriarcal.
Oui.
Et pourtant, la stéréotypie de genre est moins forte. Alors, est-ce que vous avez des éléments d'hypothèse permettant de comprendre pourquoi la stéréotypie de genre est plus vigoureuse dans les schémas familiaux populaires Qu'est-ce qu'on peut avancer comme explication?
En fait, avant de venir à ça, je veux juste préciser, parce que là, vous avez nommé la question des classes, et on pourrait faire évidemment le triptyque classe, race, sexe. Sur la question des suicides, et je vais y revenir quand même parce que c'est important, sur la question des suicides et sur la question des réussites scolaires des garçons, le discours de la crise de la masculinité, c'est un discours en France, au Canada et aux États-Unis, par exemple, fondamentalement blanc et de classe moyenne quand même. Et en fait, il ne se préoccupe pas des hommes ou des jeunes garçons qui pourraient être bisexuels ou homosexuels. Les trans, évidemment, s'ils s'en occupent, c'est parce que ça serait un symptôme de la crise de la masculinité, en fait, plutôt qu'une vraie source de préoccupation. Et en fait, quand on croise ces trois systèmes, ce qu'on constate, c'est que par rapport au discours des problèmes scolaires des garçons, par exemple, c'est que plus vous montez dans la hiérarchie de classe sociale, moins, en fait, il y a un écart élevé entre les garçons et les filles, parce qu'en fait, il y a beaucoup de ressources dans les familles, et il y a généralement beaucoup de ressources dans les écoles aussi. Et plus vous descendez, plus l'écart est marqué. Mm-hmm. Donc, ce n'est pas un écart universel, disons, entre les garçons et les filles. Évidemment, aussi, on a vu qu'il y a des garçons qui sont très, très forts dans les plus hauts pourcentages de réussite. Ils sont...
Et que les plus forts des garçons sont plus forts que les plus fortes des filles.
Exactement. Ouais. Et puis, après ça, il faut croiser, évidemment, avec les catégories... de race selon les pays. Donc nous, par exemple, on a les populations autochtones. Donc les Premières Nations, elles ont un taux de suicide tellement plus élevé que la moyenne nationale des hommes. Les jeunes hommes autochtones se suicident vraiment en masse, mais les masculinistes québécois ne parlent jamais, en fait, des hommes autochtones. Ils s'en préoccupent pas du tout.
Ouais.
Et puis après ça, pour la question que vous posez, là, il y a des débats dans les études. Donc il y a effectivement des études qui vont dire... Il y a une sorte de masculinité viriliste plus brutale, en fait, dans les classes populaires, qui est une sorte de compensation pour des manques de ressources ailleurs. Même si, évidemment, il y a de la violence conjugale, par exemple, et de la violence sexuelle dans toutes les classes sociales, ça fait longtemps que c'est démontré, il n'y a pas de doute là-dessus. On va dire des fois dans certaines études, oui, mais... il y a moins de capacité, on en vient plus au contrôle vraiment physique dans des classes populaires parce qu'on a moins de ressources. Il y a des études qui disent l'inverse. Là, évidemment, il y a des débats à ce sujet, il n'y a pas de consensus. La même chose du côté des analyses antiracistes. Est-ce qu'il y a plus de virilisme chez les jeunes hommes noirs ou est-ce que, en fait, c'est un effet de loupe et, en fait, on attribue des choses au racisme, mais, en fait, ça nous empêche de voir que, en fait, dans les classes blanches, chez les blancs, il y a ça aussi. Il y a des débats là-dessus.
Alors, vous abordez la question du paramètre de la race. Et donc, ça m'amène à aborder la thématique de la masculinité noire, des masculinités noires, qui est abordée de proche en proche dans votre ouvrage sans que vous y consacriez vraiment ni un chapitre, ni une étude spécifique, me semble-t-il, parce que, en gros, bon, les masculinités noires, c'est-à-dire celles qui sont les héritières d'une histoire qui passe par l'esclavagisme, puis le lynchage, l'émasculation, puis ensuite des sociétés où les populations sont ghettoisées et ségrégées. Donc il y a quand même, il me semble, une spécificité de l'histoire noire, notamment afro-américaine, susceptible de faire apparaître des problèmes de masculinité. Or, vous avez tendance, comme vous êtes un peu en croisade contre le discours de la crise de masculinité, je ne veux rien savoir, et de toute façon, vous détectez à chaque fois, vous croyez détecter à chaque fois, en fait, de l'antiféminisme primaire. Alors, de fait, effectivement, ce que vous citez, c'est des discours de crise de masculinité noire dans les années 70 qui sont assez antiféministes. Mais moi, je voulais vous soumettre, et je vous l'ai transmis avant cet entretien par mail, l'intervention de Franco Lolia, porte-parole de la brigade anti-négrophobie, qui s'est exprimée pendant le Bandung du Nord, dont on a mis en ligne quelques communications cet été. Franco Lolia revient sur cette question de la crise de la masculinité noire avec un discours dans lequel je ne crois pas détecter, moi, d'antiféminisme. Hein, c'est un discours qui est essentiellement antiraciste et fondamentalement décolonial. Quelques citations, je vous donne à entendre quelques citations donc, de Franco Lolia. Le pouvoir blanc a froidement assassiné leur masculinité, celle des Noirs, avant de les forcer à endosser le costume de son patriarcat. Donc s'il y a patriarcat chez les Noirs aujourd'hui, ce serait le costume patriarcal blanc qui a été endossé. Soumise à la pression multiséculaire de la suprématie blanche, l'identité masculine africaine n'a pas résisté à l'épreuve de la domination raciale, sociale et de genre qui lui fut sauvagement infligée. L'homme blanc qui s'est autoproclamé maître a tout simplement procédé à la castration. De fait, il y a eu des castrations. Hein, à la castration et à l'efféminisation systématique des hommes noirs. Soucieux de renforcer cette forme d'émasculation épigénétique, cet homme blanc a décrété qu'aux femmes noires incomberaient l'éducation des enfants et l'autorité domestique. Donc ça, c'est un trait juridique tout à fait avéré, hein, que les enfants nés en contexte esclave dans les plantations n'étaient pas reliés au père. Hein. Les enfants d'esclaves étaient reliés uniquement à la mère et le père était exclu juridiquement.
En fait, il restait propriété du maître.
Oui, voilà.
Donc, il pouvait l'enlever aussi à la mère.
Oui, effectivement. Mais ça veut dire que, bon, et Franco Lolia en vient à dire, aux hommes noirs, il ne restait plus que leur pénis.
Oui.
Bon, et encore, pas toujours.
Oui.
Et donc, il dit, voilà, on reproche aujourd'hui aux hommes noirs aux États-Unis de ne pas investir leur paternité, d'être souvent des pères démissionnaires, absents, etc. Mais en même temps, il fait apparaître que, voilà, c'est une communauté qui est héritière d'un trauma collectif qui porte quand même atteinte, indiscutablement, à l'identité masculine. Alors, est-ce qu'on ne peut pas prêter une oreille un peu plus attentive à cette crise de la masculinité, c'est-à-dire en communauté noire, ici, et dans une analyse qui est antiraciste, décoloniale, et pas antiféministe, vous voyez ? Est-ce qu'on ne peut pas tendre l'oreille à cette crise-là et considérer qu'elle a une pertinence, qu'on doit entendre ?
Donc, dans le livre, j'ai quand même une longue section sur le cas des Afro-Américains. Et j'ai aussi une section sur la question de comment le discours de la crise de la masculinité est utilisé pour donner des expiations, évidemment absurdes selon moi, des guerres, des génocides et du terrorisme. Et là, évidemment, ça peut être aussi les hommes arabes, évidemment, après le 11 septembre, la guerre éternelle que livre l'Occident contre...
Ah oui, j'illustre ce que vous dites quand même. Il y a des masculinistes pour dire que le 11 septembre, les avions dans les tours du World Trade Center, c'est la crise de la masculinité.
Exactement.
Des jeunes hommes musulmans. Sans déconner, il y en a qui ont écrit ça. Hein, des jeunes hommes musulmans qui seraient en crise parce que...
chômage, difficulté de se réaliser comme homme, père, etc.
Ou parce qu'ils ont été persécutés par une femme policière.
Exact. mais du coup... du même souffle, on disait aussi à ce moment-là que si les États-Unis ont été attaqués, c'est parce qu'ils s'étaient affaiblis à cause de la féminisation. Donc, en fait, c'est des hommes en crise de masculinité qui sont attaqués par des hommes en crise de masculinité qui s'entretuent. Donc, ce que j'essaie de démontrer dans ces deux sections, c'est qu'on peut utiliser le discours de la crise de masculinité ou la thèse de la crise de masculinité pour prouver tout et son contraire.
Tout à fait.
Et sur les États-Unis, je suis tombé sur un texte incroyable qui essaie de démontrer que la conquête coloniale des terres autochtones par les colons américains, puis après ça l'esclavagisme, puis après ça les guerres mondiales, etc. Tout ça, c'est toujours lié à une crise de la masculinité chez les hommes euro-américains blancs, donc, qui ont toujours peur de la castration et qui font tout ça parce que, apparemment, quand on a peur d'être castré, on détruit des civilisations, on met les gens en esclavage, on les lynche et puis on lance des guerres mondiales. J'imagine que ça aide beaucoup à se sentir un vrai homme. Si on survit, évidemment. Donc, il y a cette discussion-là. Comme j'ai fait le travail pour les États-Unis, j'ai pu aller voir donc, comment c'est utilisé dans tous les sens, mais aussi comment c'est discuté par des afro-féministes.
Ouais.
Et là, en fait, il y a des afro-féministes qui disent à leurs camarades, disent, évidemment, nous sommes soumis à un racisme mortel, en fait, et les hommes aux États-Unis sont souvent en première ligne, par exemple, tout ce qui est de la violence policière, le débordement des pénitenciers, la surcriminalisation des hommes noirs, etc. Donc, c'est un désastre total. Ils sont réellement... Et là-dedans, effectivement, Edouard Saïd et d'autres ont travaillé ça aussi sur la question de l'orientalisme. Il y a des mises en représentation de l'homme, l'autre, en fait, le barbare, qui est soit... super efféminé, soit super viril, et là, il devient le violeur potentiel, et là, on
sexuel.
Le lynche et on le castre physiquement dans des scènes absolument horribles. Donc, je ne dis pas qu'il n'y a pas, entre les hommes blancs colonisateurs, et les hommes noirs ou les hommes arabes, etc. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de jeu, des jeux, c'est pas un jeu, là, mais de rapports de force au niveau des représentations et des identifications et des stigmatismes, etc. Moi, je ne suis pas un homme noir, comme vous en doutez. Et donc, je ne vis pas ça. Mm-hmm. Mais ce que je lis, par contre, c'est des hommes noirs qui disent aussi, aux États-Unis, mais aussi en France, comme D.N. Cabal, j'espère que je prononce bien son nom, dans le livre « Marianne et le garçon noir ». Donc, c'est le dernier chapitre. Joao Gilbert... Gabriel, blogueur noir guadeloupéen, j'espère là aussi que je prononce bien le nom, je m'excuse, qui disent, évidemment, nous souffrons du racisme. Évidemment, ça traverse en fait notre représentation de nous-mêmes et des femmes, donc des hommes et des femmes. Mais est-ce qu'il faut, pour sortir de cela, revendiquer une identité masculine plutôt stéréotypée? Parce que là, est-ce que l'objectif, c'est que l'homme noir puisse protéger, être le pourvoyeur, comme les Promise Keepers aux États-Unis proposent, en fait, être le pourvoyeur, la figure d'autorité, la figure de discipline, le protecteur, en fait, de sa famille, ou est-ce qu'il faut travailler à une déconstruction de ces identités de sexe qui se croisent, évidemment, avec les identités racialisées, et comment on travaille ça? Ouais. Donc, D.N. Cabal, par exemple, lui dit « Plutôt que d'essayer d'être des vrais hommes, nous devrions être des hommes véritables. » Et là, il avance sur toute une réflexion sur le consentement sexuel et la question des violences sexuelles dans la communauté afro-française, dans ce cas-là.
Oui, d'accord.
Sans dire que les hommes blancs n'ont pas de responsabilité ou pas de culpabilité. Joao Gabriel dit... Mais par ailleurs, en garde les queers et les féministes blanches qui proposent une déconstruction ou une abolition des identités de genre. Ils disent « c'est probablement plus facile à faire quand vous n'êtes pas racialisé
».
Mais il dit « ce qui, moi, me préoccupe, c'est qu'est-ce que le patriarcat blanc, le patriarcat colonial, si je rapporte bien ses propos, j'espère, si je rapporte bien sa pensée, j'espère pas trop déformer, affecte les hommes noirs ». Mais il faut aussi se préoccuper surtout des femmes et des minorités sexuelles et des minorités de genre, y compris les trans, les homosexuels, etc., etc. Donc, il n'y a pas juste l'identité masculine noire qui est par ailleurs réellement stigmatisée, réellement attaquée là, dans des proportions abominables.
Oui.
Les gens, ils meurent, en fait, ils sont tués.
C'est ça, bah oui. En France, c'est pas forcément la communauté noire, ce sera plutôt la communauté issue de l'immigration postcoloniale, en fait. Hein, donc, chez nous, c'est tous les racisés, plutôt les Noirs et les Arabes, où, en fait, comme ils sont victimes d'une oppression qui est extrêmement genrée, c'est-à-dire, en gros, la France, et je pense pas seulement la France, mais tend à domestiquer les femmes racisées et à criminaliser les hommes racisés. On fait un traitement différencié. Mm-hmm. Le racisme est très différencié. Les oppressions sont vraiment des oppressions de genre, qui, d'ailleurs, la domination blanche a tendance un peu à jouer un sexe contre l'autre. C'est-à-dire, on dit aux femmes voilées qu'on va les arracher à leur oppresseur. Le musulman barbu qui est un accapareur et qui prive les femmes de la liberté. Donc, c'est dans la mesure où l'oppression raciste et la domination raciste est une oppression très genrée que, du coup, peut-être il ne faut pas qu'on se débarrasse trop vite des notions de genre en disant, mais de toute façon, maintenant, il faut dépasser tout ça et tout. Oui, mais en attendant, il y a des souffrances quand même qui sont situées dans des genres. Oui, les femmes racisées ne souffrent pas des mêmes problèmes que les hommes racisés. Et donc, c'est peut-être important qu'on garde dans nos manières de comprendre le logiciel masculin-féminin en sachant que, d'accord, ce n'est pas du biologique, etc. Bien sûr, c'est du culturel et du politique. N'empêche, ce n'est pas parce que ça n'est que culturel et politique que ça n'opère pas dans les vies des gens, que ça n'a pas des conséquences tout à fait tangibles dans leur existence. Voilà. En fait, mon plaidoyer, c'est ne jetons pas le masculin et le féminin avec l'eau du masculinisme délirant. Ce n'est pas parce que le masculinisme délire que, du coup, tout discours sur le masculin et où le féminin serait bon à jeter. Vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais quand on discute du... selon moi, il est très difficile de discuter du masculin sans... En fait, il n'est pas très difficile puisque ça se fait, mais qu'est-ce qu'on fait quand on discute de masculinité face à face? Donc, une masculinité qui serait dominatrice, colonisatrice, la masculinité blanche face à la masculinité noire, par exemple. Est-ce qu'on est capable de discuter de ça simplement comme un face-à-face, pas un face-à-face, en fait, un rapport de domination mm-hmm. totalement inégalitaire qui écrase l'autre et qui le détruit et qui l'opprime et qui l'humilie, en fait, aussi, mm-hmm. dans la représentation qu'on peut se faire de notre identité masculine, que les Noirs peuvent se faire de leur identité masculine, par exemple. Est-ce qu'il est possible de parler de ça en évacuant les rapports avec les femmes et pour reprendre... Joao Gabriel, les minorités sexuelles et les minorités de genre. Moi, je pense, mais c'est mon point de vue, hein, je ne suis pas un homme noir, donc il y a nécessairement beaucoup de choses que je ne comprends pas dans le racisme, évidemment, et dans le postcolonialisme et dans cette histoire, mais qu'est-ce que vivent les femmes? Moi j'aimerais savoir en fait qu'est-ce que des afro-féministes pensent de ce discours. Si elles veulent s'exprimer là-dessus, peut-être qu'elles veulent pas s'exprimer là-dessus aussi parce qu'il y a une solidarité évidemment. Bello qui a parlé de ça, la solidarité face au racisme entre les afro-féministes et les militants antiracistes masculins. Évidemment, les afro-féministes sont aussi antiracistes évidemment. Donc là, il y a une solidarité. Peut-être qu'elles n'ont pas envie de discuter de ça devant les blancs parce que c'est des rapports de force ou c'est des débats qu'elles ont. Mais moi, j'aimerais bien avoir le point de vue d'afro-féministes françaises, par exemple, sur cette question-là. Parce que quand j'ai trouvé le point de vue d'afro-féministes américaines sur la question de la souffrance des hommes noirs, qu'elles ne nient pas, elles en connaissent le sens, elles en connaissent l'histoire et elles en connaissent l'actualité, elles disent oui, mais il ne faut pas que ça soit détourné pour... que ça devienne une excuse, en fait, pour... essayer de calquer cette identité masculine qui est en fait très stéréotypée, qui est patriarcale, qui est un vrai homme, qui n'est pas humilié, qui est capable d'assumer sa masculinité. C'est un père de famille, un mari qui protège, qui pourvoit, qui est capable d'être le défenseur, etc. Elles disent, ça, c'est pas sûr que ça crée des rapports égalitaires.
Bien sûr. Alors là, on en arrive...
Entre les sexes.
Oui, j'entends bien. On en arrive à la question du droit des pères, notamment. Là, on commence à évoquer la figure paternelle, la question du droit des pères. Alors, c'est un chapitre dans lequel vous évoquez beaucoup... en fait, l'un des refuges contemporains du discours de la masculinité, de la crise de la masculinité, c'est dans les associations de défense d'intérêts des pères, les pères séparés, divorcés, qui luttent officiellement pour la garde de leur enfant. Mais vous détectez dans l'immense majorité de ces associations, regroupements, en fait, une structure idéologique ultra-masculiniste avec de l'anti-féminisme primaire, avec souvent le refus de payer la pension. Oui. Voilà. Alors, bon...
En fait, je détecte, je ne suis pas le seul. Je cite des sociologues et des psychologues qui ont fait des enquêtes auprès de groupes de pères séparés, divorcés, aux États-Unis, au Canada, en France, dans les pays d'Europe de l'Est... en Australie et ailleurs. Là. Donc là, on commence à avoir quand même pas mal d'informations sur qu'est-ce qui se passe dans ces groupes de pères.
Alors, c'est un peu flippant parce que j'y portais une oreille plutôt attentive et bienveillante à ces groupes-là, parce que je ne les connaissais pas d'aussi près que vous les avez étudiés, considérant qu'ils étaient sur un combat extrêmement juste et même du point de vue féministe hyper précieux, qui est, mais bien sûr qu'il faut que les pères s'investissent dans la parentalité, bien sûr qu'il faut que les pères prennent leurs droits, et c'est-à-dire aussi leurs devoirs, dans les tâches reproductives. Donc moi, j'avais tendance à avoir beaucoup de sympathie pour les mecs en haut des grues. Moi, je n'avais pas détecté le mec en haut de sa grue qui dit je veux avoir la garde de mon fils ou de ma fille. Moi, je me disais, mais oui, il a raison de vouloir ça. Il faut absolument que les pères s'investissent dans les tâches reproductives. Or là, en fait... vous ne parlez pas du tout de ça. La question de la responsabilité paternelle, la prise en charge du travail parental par les pères, parce qu'il y a tellement de travail à faire déjà pour déconstruire le délire viriliste de ces hommes-là, qu'en fait, la responsabilité des pères, en fait, c'est une question que vous ne traitez plus du tout. Au point que je ne sais même pas quelle est votre position par rapport à ça. C'est-à-dire, est-ce que ça fait partie des combats féministes de revendiquer la responsabilité des pères dans le travail reproductif?
Ça, c'est pas mon point de vue, c'est juste un fait, là. C'est ce que les féministes qui se sont intéressés à cette question-là demandent depuis longtemps. Moi, je connais pas vraiment de féministes qui ont proposé comme modèle la mère monoparentale qui élève seule ses enfants et qui débarrasse du conjoint. Mais dans le discours de plusieurs groupes de pères, c'est ce qu'on va entendre, c'est-à-dire que le féminisme où les mères excluent les pères... sous prétexte de fausses allégations, on va peut-être y revenir, là, les fausses allégations d'agression, etc., et que c'est une sorte de complot entre les avocats, les juges, les féministes et les mères pour éliminer le père de, du décor, quoi. Alors que moi, ma compréhension, c'est que les féministes, par rapport au couple hétérosexuel et à la famille, élever les enfants, etc., ça a toujours été comme proposition, ben, il faudrait qu'il y ait un partage de tâches 50-50 dans le mesure du possible, etc. Bon, et de responsabilité, de charge mentale aussi. Donc, ça va de changer les couches à penser à appeler le dentiste, etc.
Mais appeler ça responsabilité, d'ailleurs, plutôt que droit. Ça, c'est intéressant, la nuance lexicale. Hein, c'est la responsabilité des pères et non pas les droits des pères.
Exact. Mais donc, le problème, c'est que les groupes de pères dont on parle, c'est paris divorcés. Et là, je tiens à préciser tout de suite que... personne dans les enquêtes qui ont été menées auprès de ces groupes et moi-même disent n'importe tout père qui va à une réunion avec ces groupes-là est par définition misogyne, antiféministe, etc. C'est pas ça dont il est question. Mais les enquêtes montrent que souvent dans le noyau organisateur, les animateurs de ces groupes, dans les discours qu'on entend, il y a en fait beaucoup d'hommes qui y vont une fois ou deux fois, puis après ça, ils ne retournent jamais dans ces groupes. Mais en Israël, en Inde, aux États-Unis, un peu partout, c'est à peu près partout la même chose. Il y a un noyau de militants qui considèrent que la question, elle est politique, qui encourage les pères à se battre en cour plutôt que d'essayer d'apaiser le conflit avec la conjointe. Et ces groupes de pères se sont formés très souvent, en fait, en Angleterre, au Canada, etc., pas spontanément parce qu'ils voulaient justement un partage égal des tâches domestiques et ils ne montaient pas sur des grues en déroulant des bannières disant « je veux aussi changer les couches et faire la vaisselle ». Non, c'est pas ça qu'ils ont fait. Ils se sont formés, en fait, très souvent, quand il y a eu des modifications au niveau législatif sur le droit de la famille, sur le droit du divorce, sur la question des pensions, par exemple, la captation automatique des pensions alimentaires, ils sont devenus fous.
La captation automatique, ça veut dire quoi, ça?
C'est-à-dire qu'en fait, en situation de divorce, quand le père devait payer une pension alimentaire, aux États-Unis, en Angleterre et ailleurs, rapidement, on a vu qu'en fait, beaucoup d'entre eux oubliaient ou la versaient en retard ou la versaient pas. Et puis, à un moment donné, dans la plupart des États occidentaux, il y a eu des modifications législatives qui font en fait que c'est capté directement au niveau du salaire et versé directement à la mère, par exemple.
D'accord.
C'est prélevé à la source.
Et donc,
il y a eu des mobilisations en Angleterre, c'est bien documenté ailleurs. En Inde, c'est sur la question des criminalisations des violences conjugales, mm-hmm. ils se sont formés. Et donc là, on est dans une logique de rhétorique qui utilise le terme de l'égalité, mais ce n'est pas l'égalité des tâches, ce n'est pas l'égalité des responsabilités, ce n'est pas l'égalité du travail parental, de prendre en charge les enfants. C'est vraiment une égalité en termes de contrôle, des décisions, contrôle de l'argent, etc. Et c'est souvent un refus, en fait, de payer la pension qui est perçu comme, en fait, un crime de lèse-majesté une fois de plus.
Ouais.
Il y a des termes extrêmement durs. Ils disent qu'ils se sentent violés fiscalement, volés.
Violés fiscalement.
Volés, dérobés, etc. Ils sont...
Ouais.
Ils nous font croire, c'est leur discours public qui a quand même beaucoup d'écho, nous font croire aussi qu'il y a un déséquilibre systématique en faveur des mères et en défaveur des pères dans la société française ou la société canadienne, alors que la sociologie du divorce montre en fait qu'à peu près dans 80% des cas, il n'y a pas de bataille juridique et dans la très grande majorité, les pères aujourd'hui encore en 2018 se contentent assez bien d'avoir une fin de semaine sur deux l'enfant et que la charge mentale, que la charge de travail, que la responsabilité soit principalement la mère. Et donc,
oui, mais
en fait,
il faut le déplorer. Pères, finalement.
Ce sont encore aujourd'hui, ben, contrairement à ce que nous laissent entendre ces discours, ce sont en fait aujourd'hui les mères qui font la plus grande partie du travail d'élever les enfants dans la société française, dans la société canadienne ou dans la société américaine. C'est une tâche qui est considérée comme féminine, associée à la féminité. Et les hommes aiment mieux les pères, qui peuvent par ailleurs aimer leurs enfants, c'est indépendant de la question de l'amour ou de l'affection qu'ils peuvent avoir pour les enfants, ils préfèrent refaire leur vie.
Alors ça, je trouve qu'il y a un retard législatif qui est très spectaculaire. Moi, quand j'étais enceinte et quand j'ai mis au monde mon enfant, je rêvais que la loi mette en place le principe d'un congé parental égal entre la femme et l'homme, parce que je sentais bien que c'était une arnaque, cette histoire de nous, les femmes, on va avoir un congé de quasiment 3 mois, tandis que le papa, lui, il a 11 jours en France, je ne sais pas combien c'est au Québec.
C'est beaucoup plus au Québec.
Bon, alors en France, c'est 11 jours, autant dire que dès qu'il a terminé son congé, qu'il repart au travail, c'est la femme qui apprend seule les gestes du bain, les gestes de la couche, oui. comment s'améliorer, se perfectionner. Et du coup, quand le mec rentre du travail le soir, il apprend de sa femme comment améliorer son geste pour la couche ou pour le bain. Et donc, le pli est pris, il croit que la femme sait qu'elle a vocation, qu'elle a une intuition, une pente naturelle qui fait qu'elle... Alors qu'en fait, elle a juste eu plus de jours de congé. Et il me semble que là, sur le plan... Tout à l'heure, je disais, les institutions, globalement, ont basculé. Elles sont maintenant dans une pratique relativement égalitaire. Sur la question du congé parental, dont je pense que c'est absolument central... Oui. Il y a un retard. Alors, vous disiez, au Québec, vous, c'est mieux équilibré entre l'homme et la femme ?
Oui, je ne pourrais pas vous donner les chiffres exacts là, en termes de temps, mais c'est plusieurs mois et puis ça peut être partagé ou c'est entre l'homme et
c'est
la femme.
C'est l'homme et la femme qui choisissent comment ils se répartissent.
Je ne peux pas vous donner les données exactes. Là. Puis bon, il y a eu toute une mise en place aussi de ce que vous appelez les crèches là, de garderie. Bon, il manque encore beaucoup de place, mais il y a eu une politique publique assez intense à ce niveau. Donc, évidemment, ça aide. Et ça, c'est un peu l'illusion qui est entretenue, je mentionnais au tout début là, le mythe des nouveaux pères qui poussent
De fait, il y en a un peu plus qu'avant, quand même.
Oui, bien sûr, qui ont les poussettes, bon, qui s'occupent de leurs enfants, etc. Il y en a effectivement plus que dans les années 50-60. Mais là encore, les études de sociologie du couple, hétérosexuelles, évidemment, dans ce cas-là, montrent que généralement, les jeunes filles et les jeunes hommes sont persuadés de vivre dans des rapports beaucoup plus égalitaires que leurs parents ou leurs grands-parents. Mm-hmm. Et c'est parfois vrai, mais généralement, quand le premier enfant arrive, ça se reconfigure curieusement. Et c'est généralement en défaveur de la mère et en faveur du père par rapport à qui effectue les tâches, qui a la responsabilité et, accessoirement, qui a du temps libre. Parce que là, vous dites... Il revient du travail et il apprend à changer les couches. Ouais, des fois, il revient du travail, il regarde la télé aussi ou il va sur Facebook.
Oui, mais là, à ce moment-là, je veux dire, si quand il rentre du travail, il se fout devant la télé, moi, je considère qu'il y a une responsabilité de sa nana à lui dire, tu ne regardes pas la télé, tu apprends à lui donner son bain ou à changer sa couche. Voilà. Ouais, il me semble qu'à la maison, les femmes ont un peu le pouvoir.
Je ne vis pas dans leur couple, donc je ne sais pas comment ça se passe.
Mais bon, il y a une responsabilité des femmes aussi à infléchir un peu le schéma de la répartition des tâches au foyer.
Peut-être pas si facile que ça, toujours.
Il faut batailler. Ça veut dire qu'on accepte de prendre la lutte des sexes, parce qu'au fond, il y a une lutte des sexes, hein, comme il y a une lutte des classes. On accepte d'intégrer la lutte des sexes dans le foyer, qui est un endroit fait pour la paix, le réconfort, le repos. Donc, c'est consentir à...
En principe, fait pour la paix, le réconfort...
Oui, normalement. Enfin, voilà, normalement, c'est... Mais non, mais je pense que la plupart des femmes qui ne font pas ce truc de « non, tu ne te fous pas sur le canapé, tu viens m'aider à changer la couche », c'est pour s'épargner un moment de conflictualité. Parce que, bien sûr, c'est conflictuel d'arracher le mec à son journal ou à sa télé. Mais c'est le prix
Et elle aussi, elle a travaillé toute la journée.
Oui. Par ailleurs.
Elle aussi, elle est fatiguée.
Tout à fait. Mais donc, à ce prix-là, si on fait rentrer la lutte des sexes à la maison, il me semble qu'on peut négocier peu à peu une répartition un peu plus égalitaire. Évidemment, ce serait mieux s'il n'y avait pas à faire ce boulot-là. Mais c'est possible de le faire. Et je pense quand même que les femmes, encore une fois, pas que les femmes, bien sûr, il faut que les hommes se bougent. Mais moi, en tant que féministe, je considère qu'on a un rôle à jouer quotidien dans la rééducation de nos partenaires masculins aussi.
Bon courage.
Je voudrais faire un point sur les médias français, parce que nous, en France, on s'est tapé encore un joli moment de crise de masculinité. Cet été, au mois d'août, il y a eu une couverture du magazine L'Obs.
Après MeToo, c'est ça?
Oui, c'est ça. Je vous montre l'image, parce que je ne sais pas si vous l'avez vue, on la mettra en insert. Être un homme après MeToo. Et il y avait donc une photo illustrant cette une avec un pauvre gars torse nu. Manifestement, il n'a plus de linge à se mettre parce qu'il ne doit pas savoir faire de lessive ni de repassage. Les fleurs dans le vase sont toutes fanées. Sans doute, il ne sait pas comment on fait. Ou alors, ça ne l'intéresse plus. Il est malheureux. Il y a juste son chien qui le regarde avec un œil plein de pitié. Cette une de l'Obs a fait un tollé sur les réseaux sociaux. À la limite, c'est assez sain. Réaction immédiate, enfin, essentiellement des femmes. Moi, ce qui m'a frappé, c'est que les personnes qui ont réagi contre cette une, c'était essentiellement, même exclusivement, des femmes. Comme si les hommes n'avaient pas perçu ce qu'il y avait d'insultant pour eux dans cette une, qui laisse entendre que la masculinité, c'est la prédisposition à l'agression sexuelle. Et donc, je m'étonne de ça, que les hommes ne se sentent pas insultés par une une comme ça. ça vous inspire cette une que vous découvrez donc
oui,
en,
c'est
en
ça.
Direct.
Ben, là, je tombe. Je l'avais vu passer, mais je n'avais pas suivi vraiment, vraiment le débat. Ce qui est sûr, c'est que ce que moi j'entends de la France depuis au moins les années 90, c'est cette idée-là mentionnée déjà que le féminisme qui attaque sur la question de la sexualité vient vraiment perturber une sorte de d'éthos français romantique, séducteur, etc., que l'homme français aime les femmes, que ça c'est bien. Et que des mouvements comme MeToo, c'est une catastrophe parce qu'en fait, c'est une logique américaine de criminalisation puritaine de la sexualité et qu'en France, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Évidemment, j'imagine bien que quand on dit ça, généralement, on n'a pas en tête le jeune homme arabe qui, lui, est considéré comme le violeur potentiel, mais une sorte, j'imagine, d'intellectuel de la rive gauche ou quelqu'un, un homme bien élevé, blanc, j'imagine, qui est le séducteur qui arrive avec des fleurs, je ne sais pas ce qu'il fait, en fait, le séducteur français, là. Mais il a l'air charmant, une sorte de DSK ou de Gérard Depardieu ou d'Éric Zemmour.
Ceci dit, Éric Zemmour, parce que là, vous faites une liste DSK, Depardieu, qui sont effectivement, qui font l'objet de plaintes pour des comportements d'agresseurs sexuels, mais Zemmour, je crois, n'a jamais fait l'objet d'une plainte.
Mais ça doit être un grand séducteur.
Oui, certainement.
Ça doit être un romantique. Et lui ouvre son livre, Le Premier Sexe, là, qui est un livre sur la crise de la masculinité. Avec ça, il dit les jeunes hommes français ne savent plus séduire. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on entend depuis... Depuis très longtemps en France.
Ça, c'est les années 80, en fait. C'est le retour de bâton après les conquêtes féministes des années 60-70. En fait, le grand triomphe de la réaction conservatrice dans les années 80 se manifeste notamment par ce discours masculiniste.
Oui. Il monte souvent en épingle des situations. Bon, MeToo n'est pas un épiphénomène. Là. MeToo, c'est quelque chose de vraiment très important, selon moi. Là.
Ouais.
Pas juste selon moi, d'ailleurs. Et je pense que c'est vraiment une mobilisation féministe extrêmement importante.
Qui
arrive en saccade, d'ailleurs, là, parce qu'il y avait eu agression non dénoncée avant en Amérique du Nord, etc. Puis après, il y a MeToo. Donc, sur 3-4 ans, là, il y a eu 2-3 vagues comme ça.
Vous pensez qu'il y a un avant et un après MeToo? C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui a changé de manière irréversible dans les mentalités ou les discours, ou bien...
Non, je pense qu'il y a rarement quelque chose qui change de façon irrésistible et irréversible là-dedans. Mais en fait, c'est que je pense que MeToo, ce n'est pas terminé, premièrement. Il continue à avoir des personnes qui sont mises en accusation, qui sont dénoncées, des hommes surtout. Et donc, ce n'est pas terminé. Et c'est l'idée un peu que la peur doit changer de camp, comme j'entends des fois là. Il faut que la peur change de camp dans cette question d'agression sexuelle, qui est victime de quoi, qui est victime de qui agresse qui et tout là. Mais voilà, donc par rapport à la une de l'Obs, je saurais pas tellement dire plus. Mais sur ce discours là que l'homme français est accablé par la criminalisation de son discours, de son désir plutôt. Je sais pas si dans le nouvel Obs c'était ça la ligne d'attaque. Mais souvent, on va monter en épingle des anecdotes sur des campus américains, par exemple. En France, vous êtes très... Vous avez beaucoup de talent pour ça.
Oui. Et alors, qu'en est-il de ces anecdotes sur les campus américains?
Par exemple, j'ai relu Pascal Bruckner, donc philosophe de choc, qui déjà dans les années 95 parlait de... sorte de totalitarisme féministe sur les campus américains. Et l'exemple qu'il donnait, et qu'il donne tous, en fait, c'est toujours cette fameuse question de la porte ouverte. Là, on est obligé de recevoir nos étudiantes la porte ouverte. Donc, si ça, c'est du totalitarisme,
Il n'a pas d'autre exemple que ça, c'est ça, effectivement, c'est vraiment rien.
C'est comme une convention de laisser la porte ouverte, là, c'est pas...
Laisser la porte ouverte quand on reçoit un ou une étudiante en tête à tête. Ça vaut aussi en France, effectivement, on laisse la porte ouverte. S'il y a juste un enseignant et un ou une étudiante, on laisse la porte ouverte pour...
Mais il y a encore des livres qui se publient où ils donnent ça comme exemple du totalitarisme filmé sur les campus américains, c'est ridicule, quoi.
Oui, effectivement, c'est assez ridicule.
Et donc, ils vont monter en épingle aussi 2-3 cas de ce qu'ils appellent des fausses accusations, fausses allégations, qui sont d'ailleurs pas toujours très claires, parce que des fois, effectivement, il n'y a pas de jugement ou pas de condamnation rendue, mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est rien passé non plus.
L'hypothèse qu'il y ait des fausses accusations, qu'une femme détruise un homme en portant contre lui des accusations sur des faits qu'il n'aurait pas commis. Enfin, c'est une chose envisageable. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut avoir lieu, des fausses accusations.
Et il y a sûrement des gens qui disent qu'ils se sont fait voler leur vélo, mais en fait, ils n'ont jamais eu de vélo, c'est possible aussi. Mais les sondages faits de façon anonyme, etc., où les gens n'ont rien à gagner à dire qu'ils ont été agressés, montrent qu'en fait, le problème au niveau des agressions sexuelles, c'est qu'en fait, les femmes ont tellement, tellement, tellement peur de révéler qu'elles ont été agressées, de porter plainte, qu'en fait, c'est un des crimes qui est le moins rapporté aux autorités. Au Canada, entre autres, il y a eu des enquêtes qui ont révélé que quand vous arrivez devant la police et que vous rapportez une agression sexuelle, c'est le type de crime qui est le moins entendu par les autorités policières.
C'est-à-dire consigné?
Absolument. Vous pouvez dire que vous avez fait voler votre vélo. Il n'y a personne qui va mettre en doute que vous aviez un vélo ou que vous êtes vraiment fait voler un vélo. Là. On peut vous poser des questions. Oui, mais quel vêtement portiez-vous avec votre vélo? Est-ce que vous aviez... Et donc, la question des agressions sexuelles, s'il y a un problème massif, c'est le fait qu'elles sont très peu rapportées et très peu prises en compte et que c'est très dur de prouver et donc c'est très dur d'avoir une condamnation finale. Par rapport à d'autres types de crimes, il y a très peu de condamnations parce que c'est un type de crime qui est très dur à prouver, indépendamment du fait qu'en plus, souvent, les femmes ne sont pas prises au sérieux. Et puis, pour la question des fausses allégations, on entend toujours parler des fausses accusations de femmes qui voudraient détruire leur mari, mais c'est bizarre, on n'entend jamais parler du problème des hommes qui mentiraient en disant « non, j'ai jamais agressé personne ». Parce que qui a vraiment avantage de mentir dans ces situations-là? Moi, je pense que les hommes ont avantage à dire « j'ai pas agressé », même si c'est un mensonge. Je pense qu'eux ont beaucoup plus avantage à dire ça que l'inverse. Parce qu'une femme qui se lance là-dedans, ça peut être compliqué pour sa vie, ses enfants, ses amis, sa famille...
Elle a beaucoup à perdre aussi.
C'est pas rigolo de dire ça, j'ai été agressée ou violentée. Généralement, les femmes ont honte.
Bien sûr. Ce qui est d'ailleurs encore le signe d'une incroyable inversion des imaginaires. C'est-à-dire que les femmes, effectivement, agressées sexuellement, sont essentiellement frappées par la honte, comme si, en effet, c'est elles qui étaient coupables, en effet, souillées et dans la faute. Et ça veut dire que là, il y a un verrou imaginaire qui est extrêmement profond, sur lequel, là, il va falloir lutter encore pendant des siècles pour arriver à désamorcer cette question de la culpabilité féminine, qui fait que même quand elle est victime d'une agression sexuelle, elle tend à se sentir coupable. Je ne sais pas comment on fait pour désamorcer...
Non, mais avoir honte, parce que là, c'est une chose d'en parler à sa meilleure amie, mais après ça, aller en parler à un policier, puis après ça, aller en parler à un juge devant un tribunal, etc., avec des proches dans la salle et tout. Moi, je ne serais pas super motivé, moi.
Bien sûr. Bien, alors en ce qui me concerne, j'ai fait à peu près le tour des questions que je voulais aborder avec vous. Est-ce que vous, de votre côté, il y a un point ou un autre sur lequel vous voulez revenir ou que vous auriez négligé et sur lequel vous voulez insister?
Non, mais je vous remercie beaucoup. Je pense qu'on a quand même fait pas mal le tour. L'idée, c'était de dire que c'est ça, cette idée de crise de la masculinité, pour moi, c'est avant tout un discours. Donc, ça ne correspond pas à la réalité institutionnelle ou systémique. La suprématie mâle va encore très bien, mais il y a cette rhétorique qui est toujours utilisée. Ce n'est pas parce que c'est un discours fallacieux ou faux qu'il n'a pas d'effet sur le réel. En fait, je pense qu'il a des effets sur le réel. Et je pense qu'il a des effets sur le réel, y compris dans le mouvement féministe, où je pense qu'en fait, pour les hommes, de dire aux féministes « vous provoquez chez nous une crise... » une souffrance parce que vos revendications sont trop nous bouleversent trop. Je pense que là, pour revenir à la question de la socialisation, on va chercher vraiment, on touche vraiment un point faible
de
la socialisation féminine, qui est l'empathie, la prise en charge de l'autre. Et donc, c'est très différent selon moi que de dire on est contre votre droit à l'avortement ou vous n'avez pas le droit de faire ceci ou cela. On dit vous nous faites souffrir parce que vous bouleversez, vous nous enlevez nos repères. Et c'est pas la seule raison parce qu'en fait, le mouvement féministe se pose ces questions depuis le 19e siècle au moins. Mais je pense que ce n'est pas pour rien là, que depuis 10-15 ans, il y a beaucoup cette question de la place des hommes dans le féminisme, comment les féministes peuvent intégrer les hommes dans leur... prendre en compte... et il y a même des politiques publiques maintenant au Canada, en Europe et au Canada, les politiques, par exemple, ce qu'on appelle de l'égalité, où au Canada, en ce moment, le ministère des Conditions féminines Canada est en train de mettre en place tout un programme d'implication des hommes et des garçons dans la lutte pour l'égalité.
Et ça vous paraît une erreur? Ou une porte ouverte à des risques?
C'est très risqué parce que je vais vous étonner, mais généralement, ne vient pas avec ça nécessairement plus de financement public. Donc, vous avez une enveloppe, si vous êtes en période d'austérité, qui est réduite. Mmh. Et là, vous aviez des femmes qui, par et pour, dans des groupes non mixtes, réfléchissaient entre elles de leur... Et il y en avait qui avaient déjà intégré, par ailleurs, les hommes. Je pense, par exemple, au collectif féministe contre le viol en France, que j'ai rencontré, qui est à Paris, que j'ai rencontré il y a quelques années. Elle disait, ben nous, c'est le collectif féministe contre le viol, mais on reçoit des appels d'hommes qui ont été agressés sexuellement. Au début, on n'avait pas pensé à ça, mais on offre nos services aussi. Donc, vous pouvez être féministe et,
oui, intégrer
les hommes, vouloir aider les hommes, ou avoir des approches qui disent, on va utiliser des hommes dans certaines situations parce que c'est l'approche qui a été développée dans l'ONU, dans certaines régions ou institutions où il y a du monde où il n'y a pas de femmes, par exemple. Par exemple, si vous êtes dans une région, dans un pays où il n'y a pas de femmes policières ou femmes juges ou femmes médecins, bien, vous avez avantage à conscientiser quelques hommes médecins ou juges ou policiers pour que ça aille mieux pour des femmes qui sont en situation problématique. Donc, dans ce cas-là, on peut avoir des hommes qui viennent aider, mais de mettre en place des politiques publiques avec des politiques de subvention et qui insiste sur l'importance pour le mouvement des femmes et le mouvement féministe d'intégrer les hommes et les garçons, je pense que ça peut être une sorte de cheval de Troie.
Oui, et puis alors, parce que donc ça bouffe un peu les moyens et l'espace qui devraient être réservés aux femmes, mais vous-même, tout à coup j'y pense, j'avais pas pensé à vous poser cette question-là, mais vous êtes un homme féministe, et donc en publiant un bouquin féministe, est-ce que vous bouffez pas un peu l'espace public, de l'espace du débat public en tant qu'homme? Vous venez prendre peut-être la place d'une féministe, d'autres féministes, vous voyez ce que je veux dire? Vous-même,
tout à fait.
Vous prenez une place?
Oui, c'est pas dans ce livre-là, mais sur un texte, je pense, qui est accessible sur le web. Je pense que j'ai produit un petit texte inspiré d'ailleurs de d'autres réflexions, là, d'autres personnes, sur les hommes pro-féministes, la question du « disempowerment ».
Oui, alors ça, c'est super intéressant.
Donc, ça s'est mentionné un peu. Et dans ce texte, qui est, je pense, plutôt déprimant, j'essaie de montrer qu'en fait, indépendamment de la bonne foi et de la bonne intention des hommes pro-féministes, je pense qu'on a toujours des effets négatifs pour certaines féministes dans le mouvement. Donc, effectivement, parler à leur place, prendre la place. Et puis, pour le dire de façon un peu semi-ironique, mais malheureusement plutôt vrai, on est tellement pas peu nombreux d'hommes pro-féministes qu'on a facilement une visibilité disproportionnée par rapport à ce qu'on fait.
Ça fait illusion, ça donne l'impression que beaucoup d'hommes sont engagés dans le féminisme,
ça,
alors que finalement, pas tant que ça.
Mais... On obtient une attention à bon compte, disons.
Ouais, c'est facile, ouais, bien sûr.
Mais en même temps, il y a des balises qu'on se donne généralement, une sorte de... être en discussion ou en sorte de validation ou reddition de compte avec des féministes desquelles on est proche pour voir qu'on ne fait pas trop d'erreurs, parce qu'on fait souvent des erreurs. Et c'est là, le format ne le permet pas parce que c'est un face-à-face, mais on m'a fait comprendre, des féministes de qui je suis très près m'ont fait comprendre depuis quelques années de faire attention aux invitations sur des tables où on est trois hommes, par exemple, il n'y a pas de femmes invitées. Surtout, en plus, c'est évidemment les questions dont les questions qui sont abordées, c'est des questions qui ont rapport au sexe ou au féminisme, etc. C'est sûr qu'il y a des balises qu'on peut se donner pour limiter les dégâts, disons.
Oui, alors, vous avez évoqué le mot de disempowerment, la réduction de son propre pouvoir, réduire notre pouvoir mâle, minimiser le pouvoir dont nous jouissons en tant que mâle, mais donc ce disempowerment, ça ne va pas jusqu'à vous abstenir de publier ce livre. Ça, ce
non,
serait trop une amputation de votre recherche.
Non, parce que c'est quand même une cause qui me tient à cœur pour différents problèmes. Je n'ai pas envie de faire ma psychanalyse avec vous, mais qui me tient à cœur pour différentes raisons. Et je pense que sur ce sujet très précis, je pense que je ne fais pas trop de dommages et que je ne marche pas trop sur les pieds d'autres féministes.
Oui.
Évidemment, il y a d'autres secteurs qui sont dans le travail ou dans dans le mouvement féministe qui sont... ça pourrait être plus embêtant que les
hommes. Là, sur le masculin, c'est pertinent qu'un homme s'exprime sur le masculin.
On entend depuis 500 ans que les hommes sont en crise. Moi, je vous dis, non, c'est un bluff, les hommes ne sont pas en crise. Ouais. On va en fait très bien d'un point de vue de nos privilèges et nos capacités à dominer. Et en fait, ce n'est pas ça le problème.
D'accord. Merci beaucoup, Francis.
Ça m'a fait plaisir.
Pour cet entretien. Merci à vous de l'avoir suivi. Donc, La crise de la masculinité, ce sera dans vos librairies à partir de janvier 2019. D'ici là, vous pouvez revoir cet entretien, préparer la sortie du livre. Comme ça, vous jetterez dessus en étant parfaitement prêt psychologiquement, intellectuellement et tout ça. Voilà, à très bientôt pour un prochain Dans le texte. Salut.